Bonjour et bienvenue dans Histoire, Histoire. Une émission qui vous embarque de l'arise à la laise à la découverte de l'histoire et des légendes du Volvestre. Entre l'histoire attestée, la certifiée qu'on trouve dans les livres savants et les histoires que l'on raconte les nuits d'hiver quand les pierres fendent leurs secrets, je vous invite à une balade contée, bonne à bouleverser nos savoirs et à enchanter nos regards. Histoire, Histoire. Un podcast proposé et soutenu par l'Office du Tourisme et la communauté de communes du Volvestre. Aujourd'hui, nos pas nous mènent à... Ah ! Nous y sommes. Voici Longage. Longage ? Mais pourquoi ce nom ? Au premier abord, Longage, ça sonne comme une promesse. Un long gage. Un gage d'amour ? Un engagement éternel. Un engagement devant l'éternel. Tout commence au XIIIe siècle avec le testament du comte de Toulouse, Raymond VII. C'est là, dans son testament, qu'on trouve pour la première fois en latin le terme « longaticis » pour désigner « longage ». Oui, certes, c'est moins poétique qu'un longage d'amour, mais bien plus historique. Longaticis s'entend ainsi comme le long de. Et d'ailleurs, regardez là donc le panneau à l'entrée. On peut y lire en occitan longages. C'est proche de per longace, prolongement. Maintenant que nous sommes en connaissance de cause, entrons dans la ville et prolongeons donc cette balade longagière. Longagière. Longage, longaticis, le long de. Donc. Mais le long de quoi, me direz-vous ? Eh bien, le long d'une ancienne voie romaine, semble-t-il bien. Une voie romaine qui reliait Dax à Toulouse en passant par Saint-Bertrand-de-Comminges. Sans plus tarder, on emprunte cette strata qui fait un détour par l'histoire. Premier siècle avant Jésus-Christ, les Romains ont envahi la Gaule et sont présents dans la vallée de la Garonne.
Maintenant, engagez-vous et mettez-vous en rang.
Les voies gauloises, tracées pour le commerce, leur ont facilité la tâche dans leur avancée. Mais ce n'est pas assez pour eux. Pour nourrir toute une armée et asseoir durablement leur domination sur les territoires conquis, à eux aussi, il leur faut une autoroute empierrée. À l'époque, on disait strata. Alors les Romains déboisent le chemin. Ils ouvrent le passage jusqu'à 6 mètres de largeur et ils développent ainsi, par cette strata, un axe fort où circulent information, nourriture et surtout troupes et légions. Mais attention, en ce temps-là, les Romains ne faisaient pas tous les fiers à bras. Il n'y avait pas que le village d'Astérix qui résistait et qui donnait du fil à retordre aux Romains. Pour un Romain, malheur à celui qui s'aventurait trop loin dans les Ardennes.
Les Ardennes ?
Eh oui, du gaulois Arduena, qui signifie forêt. Imaginez donc qu'à cette époque, la forêt de Boucone, aujourd'hui résorbée entre Toulouse et Auch, eh bien, imaginez donc que cette forêt, elle s'étendait jusqu'aux abords de Longage. Et elle n'était pas encore pacifiée, ni romanisée. Cela dit, l'est-elle bien aujourd'hui ? Pas si sûr. Allez donc voir l'almanach des faits divers avant d'y passer la nuit. Revenons à Longage. Cette antique strata romaine, vous pourrez l'emprunter en passant par le Cerny, Pendelé, le centre de Longage, pour emprunter ensuite la Tourette, la Linde, Gache, chemin du Lançon et la route du Lançon, D37H, avant de poursuivre un chemin appelé, tiens, route de Rome. Et ceci jusqu'à Lafitte-Vigordane. Et il en reste à découvrir. Pour preuve, ce n'est qu'en 1993 qu'un pont romain traversant la rivière l'Allouge à Lavernose a été découvert. Mais arrêtons-nous donc un peu un instant sur ce petit banc de pierre. Nous sommes au pied du château de la Tourette. On est bien là, hein ? On regarde ce joli pavillon de chasse, un vrai château. Il est de style restauration et tel qu'on le voit, il a été bâti au milieu du 19e siècle. Il fait beau aujourd'hui. Les bourdons butinent, le vent berce les jeunes fleurs et les ramures des arbres. Vous remarquez alors que ce petit banc sur lequel vous êtes assis en ce bel après-midi ne date pas d'hier. Et vous avez raison. On raconte même que ce banc pourrait bien avoir connu le royal séant du vert galant, notre cher bon vieux roi Henri IV. On raconte qu'il s'y serait reposé alors qu'il remontait de sa ville natale de Pau vers Paris pour son couronnement, en l'an de grâce 1594. Non, vous pouvez rester assis, hein. C'est pas une pièce de musée non plus. Parce qu'en effet, ce château de la Tourette, avant d'être la belle bâtisse qu'on connaît aujourd'hui, était dans l'Antiquité une mutationnée, c'est-à-dire une halte relais datant de l'époque romaine et qui était placée là tous les 10 ou 15 kilomètres pour abreuver les chevaux et reposer les hommes. Nous poursuivons sur le chemin du Lançon, puis la rue de Carbonne et... Ah tiens, mais... En voilà un drôle de bâtiment qui vient de se poser sur la place principale de la ville. On dirait qu'il est monté sur de grandes pattes en pilotis. Eh oui, c'est la halle centrale qui pavane sa modernité et qui appelle les badauds sous son gros ventre ombragé. Désormais bibliothèque, cette étonnante construction haute sur pattes fut bâtie par l'architecte François Henbich, pionnier du béton armé. En 1894, c'est d'ailleurs lui qui construisit Place Saint-André-des-Arts à Paris, un des premiers grands immeubles en béton. La classe de l'avoir à langage. Et vous voyez là, à l'extérieur, tout au haut de la bibliothèque, ces frises en céramique colorée, elles rappellent la culture de la vigne et les fameuses caves de langage. Eh bien moi, fort d'une marche pareille, j'irais bien boire un petit canon au couvent. Ça vous dirait ? Allez, c'est décidé, on continue tout droit. Rue de Cap-de-Bas, puis on passe par la bien nommée rue de l'Eau-de-Vie et nous débouchons à l'intersection du chemin du Prieuré et de la rue du Couvent.
Mais... Oh non, horreur ! Oh, les portes sont fermées !
Oh mince, j'avais oublié. Le couvent a été démoli. Alors, le verre de vin... Ces ruines qu'on voit, ce sont celles du Prieuré de l'abbaye de Fontevraud. Cette même abbaye autour duquel la ville de Longage s'est structurée. Prenons le temps de comprendre ce qu'il en est de cette abbaye de Fontevraud. Nous sommes à Longage, pas à Fontevraud. Pour cela, il nous faudra remonter à l'origine de l'ordre de Fontevraud en faisant un détour par l'Anjou, entre Tours et Saumur. Accrochez-vous. L'abbaye de Fontevraud a été fondée en 1101 par un moine itinérant, Robert d'Arbrissel, qui, novateur, décide que dans cette abbaye, hommes et femmes seront sous la gouverne d'une abbesse. L'ordre de Fontevraud est protégé par la famille royale des Plantagenets et entretient par ailleurs des liens étroits avec Aliénor d'Aquitaine. Bientôt, l'abbaye devient une abbaye royale de grande ampleur. Elle accueille en son sein les dépouilles d'illustres monarques tels Henri II, Richard Cœur de Lion, Aliénor d'Aquitaine et, en ce qui nous concerne, on le retrouve. Notre Raymond VII, comte de Toulouse. Vous vous souvenez ? Celui dont on trouva l'expression « longaticis » dans le testament. Puissante, l'abbaye de Fontevraud disposait de plusieurs antennes réparties dans les différents duchés de France. Et ceci, jusque dans le comté de Toulouse, à Longage. On a pu compter jusqu'à 57 prieurés sur tout le territoire. Dans le cas de Longage, le prieuré, bâti sur la route menant de Saint-Bertrand de Comminges vers Saint-Jacques-de-Compostelle, est également appelé couvent, du fait qu'il accueillait une communauté de moniales. On aurait pu dire nonnes. Et c'est donc à partir de cette première antenne, ce premier prieuré, hérité de l'ordre de Fontevraud, que la ville de Longage s'est véritablement développée comme un lieu en soi, et non comme un simple prolongement le long d'une ancienne strata. Le monastère est au summum de sa prospérité à la fin du XVIIe siècle. À cette époque, on disait même du couvent qu'il figurait parmi les 14 plus beaux monastères d'Aquitaine. Mais voilà, le feu d'artifice de la Révolution de 1789 vient jouer des troubles fêtes. La gronde souffle tous les cierges du couvent et passe un grand coup de balai sur les poussières d'encens consacrées.
Ouvrez ! Mère Marie de Jansac, Monsieur Capet, commissaire du gouvernement. J'ai ici pour vous l'ordre de dissoudre... votre ordre.
Capet, le commissaire du gouvernement, avec ses acolytes, passe tout au décapant. Les biens religieux deviennent biens nationaux, puis y sont achetés par les plus fortunés. Ainsi, entre en scène un certain Sieur Saran.
En cet an 4 de la Révolution française, je déclare ouverte la vente du prieuré de Longage, qui servit également de prison populaire. À messieurs Saran et Labouisse, pour la somme de 36 000 francs, adjugé.
Et toi, camarade Labouisse, tu vas en faire quoi de ta moitié de prieuré?
Je sais pas trop. Revendre les pierres et réemployer les métaux, ça me dit bien.
Et toi, compère Saran?
D'abord, je vais raser Notre-Dame. Et puis, je vais revendre les pierres à qui les voudra. Je sais déjà que la commune veut récupérer le lutrin à trois pieds, de style Louis XVI. Elle veut récupérer aussi une partie du mobilier de l'église, quelques tableaux, la chaire, le carrelage, pour mettre tout ce fourbi dans l'église Saint-André. Il y a le monastère de Boulor aussi, dans le Gers, qui va me prendre la grille de clôture de l'ancien prieuré pour la mettre chez eux. Et puis l'église de la Dorade, à Toulouse, qui va me prendre l'orgue du monastère. Je leur ai refilé le tuyau. Il y a encore les Saintes-Maries qui veulent me reprendre les colonnes de la salle capitulaire pour se faire une entrée pour leur château.
Ah ouais, la belle affaire.
Et puis, pour le transport, c'est pas loin.
Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, toute cette spéculation révolutionnaire, ça m'a coupé la chic et la soif. J'ai bien envie d'aller faire un tour du côté du château Sainte-Marie pour voir ce qu'il en est des colonnes à chapiteaux de la salle capitulaire transformées en portail. Ah ouais, c'est pas mal. Un soir de brume, on ne serait pas surpris que quelques fantômes y traînent son drap blanc. Parlant de fantômes et du château Sainte-Marie, vous entendez cette cavalcade ? Ah, ça y est. Nous sommes en l'an de grâce 1542, et il semblerait bien que le vicomte de Bruniquel, celui-là même qui l'a fait construire, ait descendu de ses gorges avéronaises pour inspecter son fief rutilant. À moins peut-être que nous ayons changé d'époque encore une fois et que nous soyons au XVIIe siècle et que ce sont les Comminges qui viennent voir leur nouvelle résidence. Ou peut-être encore sommes-nous déjà en 1722, et que cette cavalcade n'est rien d'autre que le sieur Abolin, l'apothicaire du roi de Naples, qui vient d'arriver presto après un long voyage pour estimer son bien. Ou peut-être encore sommes-nous en 1771, sous la bannière de la famille Sainte-Marie, celle-là même qui a donné son nom au château, avec déjà en tête l'idée romantique d'ajouter à la bâtisse des crénelures aux quatre tours d'angle pour un style plus médiéval à la sauce pré-romantique. Les douves du château aujourd'hui sont asséchées. Demeure l'impressionnante porte fortifiée, clinquante et stylisée avec son damier de briques et de pierres calcaires. Vous entendez ? Là, là-bas, au bout du parc. Du bruit dans l'orangerie, juste un peu plus loin. Mais si, là, à travers les arbres, vous voyez ? Ce bâtiment tout en long au style troubadour très 19e siècle. Ah, c'est sûr, dans ses lubies romantiques, c'est Madame de Sainte-Marie qui nous lit des romans de chevalerie du comte de Tressan. Est-ce qu'elle ne préparerait pas plutôt une représentation d'On ne badine pas avec l'amour, de Musset ? On imaginerait bien, sous l'arche de l'ancien pigeonnier Lavoir, la scène entre l'intelligente et prudente Camille et l'entreprenant et cajoleur Perdicant. On y verrait ainsi la jeune Camille, juste sortie du couvent et dont l'éducation religieuse lui a appris à se méfier du cœur des hommes. Éprise de Perdicant, pourtant, tout comme il est épris d'elle, elle se refuse à lui, presque décidée à vouer sa vie à Dieu. En nous baladant dans le très ancien cimetière du Cap de Bas, à l'angle de la rue du couvent, regardons entre les tombes, par-delà les parapets de l'ancien prieuré. Peut-être, un soir, fantôme de vie passée, de vie possible, verrons-nous Camille passer, enfin décidée ?
En repartant par la gare de Longage, on se souviendra cependant que du longement de la voie romaine à l'engagement et au gage de mémoire, il n'y a qu'un pas. Quand le maquis de Riom sabote les aiguillages et les pylônes à haute tension le 15 juin 1944, mais surtout lorsque pendant l'occupation, tous les camps d'internement du sud-ouest, incluant celui de Noé, situé juste à côté, transitaient par Longage puis Drancy, vers les camps de la mort. 600 à 700 convois, près de 250 000 personnes qui sont ainsi passées dans l'ombre de la ville rose. Mais nous, après cette balade, comme une pile de ponts antiques ou comme des cailloux bien fixés dans le ruisseau, on se souviendra du passage des Romains, de la Strata, des embûches gauloises, de feu l'immense forêt de Boucone, de Fontevraud, du Prieuré, de ses fastes et de sa ruine, d'Henri IV sur son banc, des amants et conduits du pigeonnier, de la Révolution, de la culture de la vigne, de la modernité henbic avec ses pattes de béton, du bruit des trains. L'histoire et les histoires turbulent. À nous de les écrire, de les capter, de les rêver. C'était Histoire, Histoire, un podcast proposé et soutenu par l'Office du Tourisme et la Communauté de Communes du Volvestre. Écrit et réalisé par Gabriel Tamalet, en association avec la compagnie Présence Monde. Nous remercions Jacqueline Rigaille et l'association Les Amis de Longage pour leurs recherches. Plus d'informations et bibliographies sur la page internet du podcast. À bientôt pour d'autres épisodes sur les chemins du Volvestre. Thank you.